On découvre aujourd'hui le château du Breil sur la route allant de Villers à Chemillers, au nord-est de Cholet, dans le sud du Maine-et-Loire, peu avant d'entrer dans le bourg de la Salle de Villers. L'automobiliste de passage a juste le temps d'en apercevoir la masse harmonieuse, intégrant un corps de logis sur quatre niveaux, accolé à un pavillon reprenant le style brique et pierre, très en vogue sous le règne d'Henri IV, et s'élevant sur cinq niveaux. Le regard fugitif retient aussi un élégant portique plaqué sur la façade du corps du logis, déployant de nombreuses colonnes et piliers auxquels on accède par un imposant escalier. Les origines de la propriété remontent au XVe siècle, mais une grande campagne de construction en modifia l'apparence au XIXe. Sur le plan, réalisé en 1843, avant les importantes transformations, on accédait au château par une large allée bordée d'un point d'eau qui aboutissait à une vaste cour hémisphérique s'ouvrant sur une cour d'honneur carrée devant le logis. Cette perspective monumentale démontrait une certaine volonté d'impressionner le visiteur. Le plan du logis était en forme de U, et deux longs corps prolongeant le demi-cercle de la cour venaient fermer l'espace réservé aux visiteurs. Le pavillon de chasse et la chapelle, situés de part et d'autre du corps de logis principal, étaient intégrés dans les extrémités de ces deux ailes en retour. Les communs étaient repoussés sur le côté nord, dessinant l'espace d'une basse-cour qui leur était destinée, fermée sur un côté par des douves fontaines qui venaient jusqu'au pied du pavillon de chasse. Malgré la disparition de certains éléments, le château du Breil possède encore aujourd'hui d'intéressants témoins des dispositions antérieures qui ont résisté au temps. En particulier la chapelle et le pavillon de chasse, maintenant dégagés des ailes perpendiculaires au logis. On accède maintenant au Breil par un chemin droit, sur le côté. Bien que la cour hémisphérique ait disparu, un vaste espace se déploie devant le logis et les dépendances, datant du XIXe siècle, qui sont toujours situées au nord. La bâtisse, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, met en perspective ses deux parties. Le corps principal, dont l'origine semble remonter au XVe, et un pavillon latéral construit lors de la campagne de construction en 1856, qui devait avoir son pendant à l'autre extrémité de l'édifice. Du XVe au XIXe, c'est ainsi toute l'histoire de la propriété que nous révèle la façade du château. Nous ne savons rien de la construction d'origine, mais déjà beaucoup sur ceux qui la firent édifier et en furent les premiers occupants. Le Breil est cité pour la première fois dans un texte de 1410. Sous le règne de Charles VII, à l'époque de Jeanne d'Arc, deux frères, Thomas et Yvon Quentin, possèdent un grand nombre de terres alentour. Thomas est notamment ainsi nommé sieur du Breil-Gala en 1449. En 1539, cette fois sous le roi Henri II, la terre du Breil est le siège d'une seigneurie. Allez, franchissons les règnes et arrivons à Henri IV pour nous intéresser à Jean V de Vaugirod qui est désigné comme seigneur du Breil en 1602. Sous Louis XIII, la terre et le château du Breil passent à la famille de Lancros qui avait rang d'écuyer. On ne sait s'ils habitent la demeure car ils sont bien pourvus en propriété et château. Mais ils jouent pleinement leur rôle de seigneur. Ils sont ainsi régulièrement parrains des enfants de leurs fermiers et leurs épouses, les dames du Breil, sont cités comme marraines pour de nouvelles cloches de l'église paroissiale de la Salle de Villers. C'est en 1718 que le Breil devient véritablement une résidence permanente, et encore est-ce pour abriter la retraite paisible de deux veuves de magistrats angevins, les frères Préjean, qui occupaient des charges de lieutenant des eaux et forêts, de président de l'élection d'Anjou ou de lieutenant criminel. C'est la femme de l'un d'eux, Madeleine, qui, veuve déjà, achète le Breil et s'y installe avec sa belle-sœur, qui est aussi sa demi-sœur. Elle dote le château d'une nouvelle chapelle dès 1721 pour remplacer les oratoires auxquels elle avait l'habitude de se rendre à Angers. Après elle, les Préjean vont posséder le Breil pendant près d'un siècle, sans toutefois y résider d'une façon régulière, occupés ailleurs par leurs charges à la cour de comte de Bretagne. Mais comme les Vaugirod ou les Lancros avant eux, ils restent les maîtres de leur petite société rurale et à leur tour portent les enfants de leurs fermiers sur les fonts baptismaux. Faut-il chercher dans l'absence récurrente des seigneurs et dans leur paternalisme vis-à-vis des familles paysannes qui dépendaient d'eux l'explication de la protection dont va bénéficier le château du Breil à l'époque de la Révolution, situé pourtant sur un territoire particulièrement inflammable, au cœur des rudes batailles de la guerre de Vendée entre les Bleus et les Blancs, il fut miraculeusement épargné. En 1811, la veuve du dernier propriétaire, Préjean, fixé à Tours, tourne la page du Breil, qui devient la résidence permanente d'un jeune homme de 24 ans, Désiré Gontard de Launay, fils d'un petit seigneur voisin de Neuvy-en-Mauges, ancien avocat, apparenté à plusieurs familles ayant donné des maires d'Angers. Désiré et sa femme Adélaïde s'installent dans leur nouvelle demeure et leurs 8 enfants y naissent successivement. En 1809, le préfet du Maine-et-Loire le nomme maire de la commune de la Salle-de-Vier. À 32 ans, il assume cette charge, mais il avoue avoir eu beaucoup de peine à se déterminer et à accepter ses fonctions et n'avoir cédé qu'aux instances pressantes des habitants. Il restera pourtant en fonction jusqu'en 1852, régulièrement réélu cette fois au suffrage censitaire qui s'élargit au fil des élections et des changements de régime. Pourtant, à la mort de son père, il s'établira au château de Launay et se rendra de moins en moins dans sa demeure du Breil, devenue secondaire. Il n'en continuera pas moins à se dévouer aux habitants de sa commune. Après sa mort en 1853, son fils Charles essaie de reprendre le flambeau et entre au conseil municipal de la Salle-de-Vier. Mais sa vie est ailleurs et en 1858, le Breil change à nouveau de main, vendu par un échange de terres à une illustre famille d'Anjou, les Terves. Les Terves, c'est une ancienne famille féodale connue depuis 1135, petits seigneurs et écuyers de père en fils au XVe et XVIe siècle, et voilà chevaliers au XVIIe et marquis au XVIIIe. Pierre-Charles de Terves, après une longue carrière militaire terminée en 1777, émigre en 1791 et devient commandant en second d'une compagnie de gentilshommes de l'Anjou, à l'armée des princes. Il avait emmené avec lui ses 2 fils aînés, l'un sera tué en 1794 à l'armée de Condé. Le cadet, lui, Armand, trop jeune pour émigrer, s'est engagé dans les rangs des insurgés vendéens. Il y trouvera aussi la mort en 1794. Pierre-Charles de Terves avait laissé derrière lui sa femme Eulalie et leurs 5 filles. Elles vont également connaître un sort cruel. Arrêtées à Angers en novembre 1793 comme suspectes, elles sont détenues à la prison des Cordeliers, puis plus tard dans d'épouvantables conditions au château de Montreuil-Bellay. 3 des 5 filles y laisseront la vie. Et lorsque Pierre-Charles de Terves revint de l'émigration en 1800, après une absence de près de 10 années, il avait perdu 5 de ses 10 enfants dans la tourmente. Intéressons-nous maintenant à son petit-fils, Victor de Terves, né à Angers en 1806. Fidèle à la tradition familiale, il embrasse la carrière des armes. Mais la famille est fermement légitimiste et lorsque Louis-Philippe remplace Charles X en 1830, Victor brise son épée et quitte l'armée. En 1858, Victor et sa femme Gabrielle achètent donc à la famille Gontard le vieux château du Breil. Pendant que leur fils Roger répond aux côtés de centaines de jeunes catholiques et royalistes à l'appel du pape Pie XII pour défendre ses états contre les menées de Garibaldi et de la famille de Savoie, il décide de transformer l'austère petit château de campagne en une spacieuse demeure à l'élégante façade, dans un style néo-renaissance propre aux visions réactionnaires de la noblesse du temps. Les vieux bâtiments qui encadraient le logis du Breil dans une cour carrée sont abattus, ne laissant subsister à droite et à gauche du château que leurs extrémités qui deviennent, qui un pavillon de chasse, qui une élégante chapelle. Les 12 fontaines sont asséchées et leur maçonnerie enfouie. Le grand portique à l'italienne et ses 10 colonnes d'inspiration romaine, comme la vaste terrasse côté nord, la dissymétrie d'une nouvelle tour près du pavillon de chasse, donnent à la façade principale, en vue de la route de Chemillé, une allure romantique. Les communs avec plusieurs écuries et la maison du régisseur sont construits au droit du château à l'emplacement des anciens corps. À l'intérieur, le Breil devient pour la première fois une demeure agréable à vivre et à recevoir. Le grand escalier, la salle à manger, ses boiseries monumentales aux armes des Terves et des charbonniers de la Gannerie, la famille de Gabriel, le salon bleu avec sa cheminée de marbre blanc et ses miroirs sculptés, des chambres pour une famille nombreuse et sa domesticité, Victor de Terves a ainsi voulu passer au Breil plusieurs mois d'agrément chaque année. En 1868, la consécration de la nouvelle chapelle, en présence de leur fils Roger et de toute la noblesse alentour, marque la renaissance du Breil. Le comte de Quatre-Barbes, héros des guerres pontificales et du nombre. Mais Victor de Terves et sa femme ne profiteront guère de l'œuvre achevée. Un peu plus de 10 ans plus tard, ils décèdent à une année de distance, en 1879 et 1880. Leur fils Roger mène alors une vie brillante et engagée entre ses différentes propriétés, l'hôtel de Ruillé à Angers, le château de Saint-Jean-des-Mauvrais qui lui vient de sa femme Louise Pasqueret de Rouvray, épousée en 1869, et le Breil dont il hérite. Il est malgré tout attaché à la Salle-de-Vier puisqu'il en devient maire en 1876, succédant à son père. Mais avec l'âge, il résidera de plus en plus souvent à Angers. Et en 1888, il vend sa propriété au comte François de Maillet de la Tourlandry, qui appartient à l'une des plus illustres et anciennes familles de l'Anjou. Il conserve néanmoins une maison dans le bourg et restera encore 7 ans maire de sa petite commune. Le nouveau propriétaire du Breil a 35 ans. Avec sa femme, Germaine de Trimont, ils ont déjà 3 enfants. 4 autres naîtront dans la nouvelle demeure familiale, complètement remaniée et embellie à peine 25 ans auparavant. Outre le château, la propriété comprend 9 métairies et s'étend sur 352 hectares. En 1895, à 43 ans, François de Maillet de la Tourlandry donc succède à Roger de Terve à la mairie du village. L'année suivante, le Breil est en deuil. La petite Simone, âgée d'à peine 10 mois, s'éteint. Premier drame d'une longue série que devra affronter le châtelain du Breil. Loin de toute ambition, étranger au besoin de paraître, François de Maillet s'implique de plus en plus et les responsabilités municipales consacrent ce changement avec un besoin nouveau de réaliser des choses et de prendre en charge les problèmes collectifs. En mars 1899, François perd sa femme qui partageait sa vie depuis 17 ans. Elle n'avait que 41 ans. Et il se retrouve veuf avec 6 enfants, âgés de 15 ans à 18 mois. Après ces 2 drames, il a pourtant la joie de voir l'aîné de ses enfants, Jeanne-Marie, 18 ans, épouser en sa mairie de la Salle-de-Vier, en avril 1902, le baron Pierre de la Grandière. Quelques mois plus tard, François de Maillet connaît le bonheur d'être grand-père pour la première fois, Simone de la Grandière, née au Breil en mai 1903. En septembre de la même année, le comte de Maillet voit sa fille Françoise prendre le voile pour devenir sœur Marguerite de l'ordre des Franciscains de Sainte-Marie-des-Anges. Les liens entre la population du village et la famille Maillet, si respectée après ses deuils et à travers la conduite de son maire, sont particulièrement proches et la générosité de Monsieur le Comte est devenue proverbiale. Chacun sait alors que tout nécessiteux trouvera son pain au château. Et les anciens, comme bien des artisans et des commerçants du bourg, connaissent chaque dimanche après-midi le chemin hospitalier du pavillon de chasse du château. François de Maillet en laisse l'usage pour des parties de cartes ou de billard qui transforment l'espace de quelques heures le quotidien difficile. S'il fait froid, les invités se font offrir le chocolat et les brioches et le comte de Maillet ne manque jamais une occasion de saluer ceux qui profitent ainsi des dimanches au Breil. Le matin, tous attendent sur la place de l'église l'arrivée de Monsieur le Comte et de ses enfants pour la messe dominicale. On guette la voiture, tirée par 2 chevaux, que l'on dételle juste avant le bourg à la métairie, et le rite se répète dimanche après dimanche, immuable. En 1908, Françoise, devenue sœur Marguerite, s'engage dans la vie missionnaire à Ajmer-Merwara, aux Indes, qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort 70 ans plus tard. Le père et la fille connaissent néanmoins un ultime bonheur partagé, puisqu'avant le départ définitif, ils entreprennent ensemble un périple plein d'émotions et de symboles avec un pèlerinage à Rome où ils auront l'immense joie d'être reçus par Pie X. Ils ne se reverront plus jamais. Mais cette blessure privée, qui s'ajoute déjà à beaucoup d'autres, reste secrète pour l'homme qui s'est donné un prix à l'engagement de sa fille. En juillet 1909, Henri, l'aîné des enfants, épouse Anne-Marie de Fougerolles, mais ce bonheur ne dure pas. Et en septembre de l'année suivante, le jeune vicomte de Maillet perd brutalement la vie au château du Breil, des suites d'une grippe infectieuse. Henri n'a pas 26 ans et sa petite fille n'est âgée que de 3 mois. Ce drame personnel précède de 4 ans la tragédie nationale. Le 4 août 1914, la lecture du journal de Paris reçu au château du Breil fait sortir d'un bond le comte de Maillet qui se précipite vers son cocher, Michel Morille, en s'écriant « Michel, attelle, vite, partons !» Le cocher n'en saura pas plus. Mais dès son arrivée en sa mairie, François de Maillet n'a de cesse de faire chercher tous ses conseillers municipaux afin de les prévenir que, depuis la veille, la guerre est déclarée. Les événements, même perçus à distance, frappent de stupeur la population, vite informée de l'avancée allemande. Le conflit qui va s'éterniser va constituer année après année un véritable calvaire pour le maire de la commune. C'est lui qui reçoit en sa mairie les dépêches officielles du ministère des Armées, dont le contenu se devine avant même l'ouverture de l'enveloppe. « Monsieur le maire, je me dois de vous demander de prévenir avec les précautions d'usage, etc. etc. » François de Maillet sait qu'il va devoir frapper à la porte d'un de ses administrés pour annoncer la mort d'un mari ou d'un fils. 40 fois ainsi, entre 14 et 18, il deviendra le terrible messager dont la seule arrivée dans un foyer fait naître un silence accablant. Après le mariage de son dernier fils en 1922, François de Maillé entend régler ses affaires de son vivant à travers une donation partage de ses biens entre tous ses enfants. Cet acte de sérénité lui permet d'espérer voir le Breil, devenu la terre de la famille, franchir pour la première fois le cap d'une génération, ce qui ne s'était pas produit depuis 1811. Charles Gontard, fils de Désiré, n'avait pas conservé le domaine de son père. Roger de Terbes, fils de Victor, avait fait de même en cédant le Breil à François de Maillé. L'avenir, du vivant même du comte de Maillé, ne confirmera malheureusement pas ses espérances. Après le mariage, cette fois de sa dernière fille, en 1925, François entame une période de sa vie plus nomade, régulièrement convoyé par ses gendres pour se déplacer de résidence en résidence. Tout en respectant ses obligations de mère, il va ainsi augmenter le rythme et la durée de ses séjours chez ses filles. Au Breil, fermiers, domestiques, comme les habitants du bourg, n'ignorent pas qu'une page est tournée. Monsieur le vicomte n'a pas encore remplacé monsieur le comte, mais c'est maintenant davantage Armand de Maillé qui accueille, reçoit, récompense les bons élèves, invite les artisans du village à pêcher avec lui dans l'étang du Breil, pendant que sa femme propose une promenade en barque aux épouses et enfants présents. En juillet 1930, François de Maillé trouve la récompense d'une vie vouée au bien public en recevant au milieu de toute la population rassemblée de la salle de Vieille la croix de la Légion d'honneur. L'image de François de Maillé, certes âgé, mais si solide et rayonnant de bonté face à sa famille et ses concitoyens, restera longtemps figée dans l'esprit de ses proches, car quelques jours plus tard, il est victime d'une attaque cérébrale qui le rend hémiplégique. Même s'il se remet rapidement, il prend aussitôt ses responsabilités et le 15 août, il donne sa démission de maire de la commune. Il aura pourtant une autre page bien plus difficile à tourner. Il n'ignore pas que les belles années du Breil sont aussi finies depuis longtemps. Il connaît les difficultés de son fils Armand pour gérer et entretenir un domaine important, avec des revenus qui ne sont plus ceux que le comte de Maillé connaissait encore au début du siècle. D'autant que l'entretien du château repose maintenant sur les seuls revenus de 3 métairies, et non plus 9. Quelques initiatives de développement propres à la terre du Breil, notamment dans le domaine de l'élevage, ne donneront pas les résultats escomptés. La vente de son cher château du Breil, longtemps reculé, s'impose maintenant comme une décision inéluctable. Armand de Maillé s'y est résigné, son père partie prenante du fait des droits conservés de la succession de sa femme, est maintenant résolu, la mort dans l'âme, à y consentir. La vente est effective en juillet 1939, au profit de Joseph Soulard, pharmacien à Cholet. 1939. Tout laisse à penser que le cauchemar, encore en mémoire des sombres années 1914-1918, va se reproduire. Le 2 septembre suivant, Hitler envahit la Pologne et le lendemain, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Le 9 juin 1940, le gendre du comte de Maillé, le lieutenant Georges Galbaud-Dufort, trouve la mort en combattant. Quelques mois plus tard, le 28 novembre 1941, François de Maillé de la Tourlanderie s'éteint auprès de sa fille aînée et de ses petits-enfants. Son corps repose au cimetière de la salle de Vieille, au milieu de tous les enfants de la commune, dont l'annonce de la mort fut la plus pénible tâche, le plus pénible devoir de son existence.